pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Pour 5 jours de quart de tour à la Gloriette, combien de tonnes de CO2 en tout ?
Pour 5 jours, en tout, on a 172 tonnes de CO2 produits pour le festival au quart de tour édition 2019. Bilan carbone du festival au quart de tour. Avant, je voudrais revenir quand même sur le bilan carbone pour rappeler ce que c'est. Hein. Un moyen pour évaluer ces enjeux environnementaux via la mesure des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz carbonique, qui peut être produit par l'organisation et la réalisation du festival. Donc, un bilan carbone, alors comment transformer cet événement en des tonnes de CO2? Il s'agit simplement d'évaluer les déplacements des festivaliers, leurs moyens de déplacement. Il s'agit aussi d'évaluer tout ce qui est approvisionnement en nourriture, en boisson, et puis de voir les émissions de CO2 associées à la fabrication de ces produits. Il faut voir aussi les émissions liées à la logistique, transport des équipements, même des fois la fabrication des équipements. Il y a tout ce qui est consommation d'électricité, de gaz. Donc tout ceci est mesuré, évalué à partir de factures, à partir d'enquêtes sur le terrain. Et ensuite, on transforme des kilogrammes de, par exemple, de riz ou des litres de bière en kilogrammes de CO2 émis par rapport à leur fabrication et leur transport et leur utilisation.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le dernier épisode de notre saga Au Carbone. Calcul du bilan carbone de l'édition 2019 d'Au Quart de Tour, le génial festival organisé depuis 1986 par Radio Béton à Tours, Indre-et-Loire, région centre. Un calcul de bilan carbone réalisé par Valérie Fauché, dit Val, consultant en environnement. Et Val l'a calculé, Au Quart 2019 a généré 172 tonnes de CO2. En fait, c'est peu comparé à d'autres festivals, et vous savez quoi les amis? Vu qu'une énorme partie de ces 172 tonnes de CO2 ont été produites par le déplacement des festivaliers et des artistes, on pourrait peut-être faire mieux ou moins pire si celles et ceux qui le peuvent, genre qui habitent à Tours, ne prenaient pas la voiture pour aller au festival, mais privilégiaient plutôt le tram ou le vélo. On en parle aujourd'hui avec Val. Salut Val.
Salut JBD.
Alors Val, quand on pense CO2, on pense essence, on pense diesel, on pense moyen de locomotion, on pense bagnole, tout ça, qui emmène les festivaliers et les artistes au festival. Est-ce que cette consommation de carburant des véhicules qui ont permis à tout le monde d'aller et de revenir du festival a constitué le principal objet d'étude d'Au Carbone?
Eh bien, je savais que ce poste consommation de carburant pour le public, pour aussi les artistes et aussi pour les bénévoles, donc allait être le poste le plus important pour les émissions de CO2 du festival. Donc j'ai accordé un soin assez important à l'étude de ce poste, et pour avoir des bons résultats, j'ai réalisé une enquête sur le public.
C'est pour ça qu'on vous a vu avec Steph à l'entrée du festival, avec des petits questionnaires demandant aux gens comment ils étaient venus à Ocar.
Oui, donc le bilan carbone, c'est pas moi tout seul qui l'ai fait. Hein. L'équipe pour le bilan carbone de Ocar 2019, c'était Stéphanie Attégan qui m'a accompagné sur l'enquête terrain et aussi sur la rédaction du rapport. Puis moi-même, qui ai fait l'enquête terrain, la rédaction du rapport et les calculs, évidemment. Je voudrais ajouter aussi l'équipe, il y a mon collègue Gilles Lepape qui a travaillé avec moi sur les statistiques de déplacement du public. Donc cette enquête terrain, c'est tout à fait ce que tu dis, on était dans la queue à interroger le public et on a apporté un grand soin à connaître d'où ils venaient, comment ils sont venus, à combien, au moins ces trois critères, pour pouvoir avoir un chiffre très fiable pour le calcul des émissions du public. Puisqu'on sait que c'est le poste le plus important, donc on voulait réduire au maximum la marge d'erreur et non pas faire un sondage d'une centaine de Pékin, comme ça se fait des fois, hélas, et puis dire « ouais, voilà, ça y est, j'ai mon enquête publique ». Nous, on a fait une enquête publique où on a interrogé 2000 personnes.
Sur 5 jours.
Sur 5 jours, hein, donc ce qui correspond à un échantillon de 12% de la population du festival. Donc ce qui nous permet d'affirmer d'avoir des chiffres fiables. Le déplacement des festivaliers, donc c'est le poste le plus important du bilan carbone du festival, avec 106 tonnes de CO2. C'est 60% des émissions du festival, quand même. Alors, ces émissions, bien sûr, elles sont réparties principalement entre les émissions de CO2 pour les véhicules, les voitures, les camions, donc ce qui représente 98% des émissions de CO2 du transport des festivaliers. C'est-à-dire, on est à 104 tonnes de CO2 qui est lié aux émissions des véhicules, des festivaliers. C'est le point le plus important, hein, donc c'est le transport des festivaliers en voiture. Les effectifs du public qui se déplace au festival sont répartis comme ça. 55% du public vient en voiture. Ensuite, on en a 21% qui viennent en tram, 11% qui viennent en vélo, 9% qui viennent à pied. Ensuite, ça se répartit en train et en bus et en moto pour quelques pourcents en tout. Donc, on se rend compte quand même que la voiture est le moyen principal de venue au festival. Alors, ces voitures, on s'est rendu compte, à travers aussi notre enquête, que beaucoup de gens venaient de Tours seuls en voiture. Donc, ça veut dire qu'il va falloir insister sur le covoiturage ou vraiment le basculement d'un mode voiture vers un mode de transport en commun ou un mode doux. Un vélo ou à pied, ou vélo. Bon, après, on peut se dire, il faisait pas beau, plus de gens sont venus en voiture. Oui, mais néanmoins, il y en a beaucoup qui sont venus seuls. J'insiste. C'est assez intéressant parce que ça peut permettre d'avoir des données chiffrées pour aller négocier avec les partenaires du festival, ceux qui gèrent les transports en commun, mais comme aussi les institutionnels, pour leur dire, on émet tant de CO2, on a des moyens pour diminuer nos émissions de CO2, il faut que vous nous aidiez. Là, en ce cas-là, on ne vient pas avec, des impressions. On a des chiffres, on peut dire combien ça ramène en termes de gains. Alors donc, pour en revenir quand même à ces émissions de CO2, quelqu'un qui vient en voiture, en moyenne, il émet 9,64 kg de CO2. Sachant que la moyenne par festivalier est de 8,88, on explose un peu la moyenne quand on vient en voiture. Sinon, la moyenne de transport est de 5,47, mais pour le transport en général par festivalier.
Tous les festivaliers d'Ocarne ne viennent pas que de Tours et de son agglo, il y en a qui viennent de Vendôme, d'Orléans, de Nantes.
L'enquête qu'on a réalisée donc, a énormément intéressé l'équipe d'Ocarne parce qu'elle donnait aussi une image très précise de la localisation de leur public qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, surtout sur un tel échantillon.
Alors Val, quelle est la proportion dans les festivaliers d'Ocarne de Tours de ceux qui viennent de Tours ou de sa périphérie ?
On a 58% des festivaliers qui viennent d'une zone inférieure à 6 km, c'est-à-dire Tours, La Riche, Saint-Pierre, Jouet, etc. Ensuite, on en a 14 qui viennent d'un rayon entre 6 et 10 km. On a 6% qui viennent entre 10 et 20 km. 12% qui viennent entre 21 et 50 km. 6% qui viennent entre 50 et 150 km. Et les 4% restants viennent de plus de 150 km.
Donc, l'essentiel du public vient quand même, comme on dit rapidement, de Tours et de son agglo.
Voilà, c'est un festival local, très bien implanté localement, qui a un succès, qui a taille humaine et donc qui draine un public principalement de Tours et de ses environs. Pas de son agglo, mais de ses environs, jusqu'à 20 km. On aura là un petit 80% du public.
Et un festival qui a la chance d'être plutôt bien desservi par des transports en commun.
Oui, oui. Alors donc, on est bien desservi sur les transports en commun. Mais néanmoins, il y en a quand même 24% des festivaliers qui viennent en voiture seuls d'un rayon inférieur à 5 km. C'est-à-dire qu'ils viennent de Tours, tout seuls. Bon, ce qui représente 4664 voitures, plus ou moins 5%. On en a 32% des festivaliers qui viennent seuls en voiture d'un rayon inférieur à 10 km. Donc là, on a un potentiel pour tenter de favoriser du covoiturage ou tenter des basculements vers d'autres moyens de transport. Après, c'est plus une enquête sociologique pour leur demander mais pourquoi vous venez seul en voiture. Mais ça, c'est encore une autre enquête. Donc, globalement, sur la zone 0-10 km, on a 42% donc, oui, qui viennent en voiture en général. Et donc, tout le reste vient donc en moyen doux, vélo ou piéton, et en transport en commun. Il y a les navettes de retour, c'est très, très, très pratique. Voilà. Donc, pour conclure, en quelque sorte, le transport des festivaliers, c'est le point le plus important pour le bilan carbone au quart de tour. On se rend bien compte qu'il y aura toujours un talon, c'est-à-dire d'émissions de CO2. Il y a des gens qui viennent d'un rayon qui n'est pas desservi par des transports en commun. Même en mettant du covoiturage, on fera toujours des émissions de CO2, c'est normal. Et donc il y a ce talon. Mais il faut vraiment voir et agir plus sur le public de proximité pour qu'il puisse faire un effort dans le sens d'un bénéfice pour l'environnement, pour qu'ils changent leurs moyens de transport pour venir au festival d'au quart de tour.
Ouais, les copains, les copines qui habitaient à Tours, intramuros, quand même essayaient de faire autrement que de prendre la voiture pour aller à Aucar, ou au moins mettaient trois autres passagers dedans.
Trois autres passagers dedans, c'est très bien. Oui.
Un truc de ouf, faites du vélo.
De toute façon, venir à Aucar en voiture, moi je trouve que c'est un peu criminel. Hein.
Quand on habite à Tours, intramuros, oui.
Je vais dire criminel aussi pour les autres par rapport aux ébriétés patentes du public qui sort du festival.
Puis pensez à tous ces policiers qui sont sur le parking d'Aucar, qui auraient certainement des choses plus intéressantes à faire que de vous faire souffler dans des machins pour voir si vous avez picolé.
Alors, il y a eu le déplacement des festivaliers, hein, donc on est d'accord, c'est le point le plus important. Il y a aussi le déplacement des bénévoles qui a un impact qui a été mesuré.
Alors Val, on parle du nombre de festivaliers, on l'a dit, hein, Aucar, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime beaucoup, c'est un festival à taille humaine. Une jauge maximale de public dans l'enceinte du festival, c'est 4000 personnes peut-être ?
Oui, c'est ça, il me semble, hein, je crois, 3500, 4000 personnes. Et sur l'ensemble du festival, moi j'ai de l'ordre de 19 000 festivaliers.
Donc on disait une jauge environ de 3500, allez max 4000 festivaliers par soir, avec une équipe de bénévoles qui gravite entre quoi
On a une équipe de bénévoles de 200 personnes, donc ça commence à être important, donc je ne pouvais pas ne pas mesurer aussi leur impact sur le bilan carbone. Bon, j'en parle simplement pour dire que ça a été pris en compte dans le bilan carbone. On est de l'ordre de 3 tonnes et demie de CO2 pour l'ensemble des déplacements du personnel de festival sur l'ensemble du festival, c'est-à-dire l'organisation et aussi le rangement. Ça donne une moyenne de 170-180 grammes par festivalier. Hein, et ça représente seulement 1,8% des émissions totales du festival. Là, bon, trouver des moyens d'action pour diminuer, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes horaires, des choses comme ça. Mais bon, c'est toujours à pousser. Hein, mettre un tableau de covoiturage au sein de l'équipe, c'est quelque chose qui, si ça n'est pas fait, faudrait le faire au moins pour dire qu'on fait quelque chose dans ce domaine-là.
Alors Val, tu viens de nous parler donc du bilan carbone et surtout pour le carburant donc utilisé par des festivaliers pour venir et repartir du festival au quart de tour. Penchons-nous maintenant sur les artistes. Ils sont pas tous locaux, il y en a qui viennent de loin, voire même d'un autre continent. Et donc, quel est le bilan? Parce qu'au quart de tour, sur 5 jours, je crois que c'est au moins 30 groupes.
36 groupes, hors Apéroc. Ça représente 134 artistes qui sont venus du monde entier. Corée du Sud, États-Unis, Grande-Bretagne, Finlande, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Afrique du Sud, Suède et Portugal. Ouf! Donc, pour les groupes qui sont venus en avion, en fait, je ne prends pas la totalité des émissions du voyage en avion du groupe. C'est quand il fait une tournée sur l'ensemble du continent européen, par exemple.
C'est ce que vous nous avez expliqué, nos Américains, par exemple, ouais. Ils ne prennent pas l'avion que pour jouer à Au quart de tour. Oui, Au quart de tour est l'une des dates de leur tournée. Voilà. Et donc, tu as redivisé, en fait.
Oui, c'est ça. J'ai fait des allocations. Par exemple, le voyage de Flaming Lips, ils faisaient 20 dates dans leur tournée en Europe. Donc, les émissions de leur voyage aller-retour des États-Unis en Europe ont été divisées par 20. Et c'est ce 20e qui a été alloué à Au quart, plus le transport en voiture, en camion. Mais ça, c'est général à tous les groupes. Pour les groupes qui sont venus en camion, ben, les émissions sont moyennées entre la date amont, c'est-à-dire la ville avant la date, et la ville après la date. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le déplacement des artistes? Ça représente 30 tonnes de CO2, 22% des émissions de CO2 des déplacements. Donc après le déplacement du public, le déplacement des artistes représente le deuxième poste des émissions du festival avec 18% des émissions totales, c'est-à-dire 1,5 kg par festivalier.
Rappelle-nous, hein, le déplacement du public, c'est donc le premier poste d'émissions carbone.
Ouais. 106 tonnes de CO2 pour le public, 30 tonnes pour les artistes.
Et quel pourcentage pour le public?
62% et 18% pour les artistes. Le transport du public est le principal poste. Quand on regarde le deuxième poste, il est à 18. C'est le transport des artistes. Sur les artistes, qu'est-ce qu'on peut dire? Plus ils viennent de loin, plus ils émettent. Non, pas forcément, tout dépend du nombre de dates. Hein. Les Flaming Lips ont des émissions carbone inférieures à une artiste allemande qui a fait qu'un seul aller-retour en avion pour son concert, par exemple. Donc, il n'y a pas de généralisation à faire. Hein. Alors, sur les déplacements des artistes, on peut voir que le déplacement en avion, quand même, représente 75% des émissions des déplacements des artistes, hein, ce qui fait environ 500 kilos par artiste. Après, le deuxième poste, c'est les artistes en voiture, en bus, hein, bien sûr, où ça représente 25%, et le train, c'est anecdotique. Donc, l'avion est le principal poste d'émission de CO2 du déplacement des artistes.
Ah, est-ce que ça prend pour écouter de la bonne techno allemande, hein?
Après, les artistes, eux, le déplacement, c'est leur métier. Ils sont obligés de se déplacer, car un artiste qui ne se déplace pas, soit il est malade, soit il est mort, soit il est trop vieux, soit il est en congé, ou en studio aussi. C'est aussi donc un aspect très important du métier d'un artiste. On ne peut pas lui reprocher d'avoir des émissions liées à ses déplacements.
Comment tu n'es pas venu jouer au festival en vélo depuis l'Allemagne?
Bon, par exemple, des groupes comme Dop Saint-Jude ou DTSQ.
Saint-Jude, c'est Afrique du Sud.
Ouais, et puis Corée. Ils ont 6 à 7 dates, mais ils restent quand même assez émetteurs avec plus de 2,8 tonnes de CO2 équivalent pour leur venue sur le festival au quart de tour. Il y a Adjan Sidegrinder qui vient de Suède et qui n'a qu'une date, qui émet autant pour son transport que les groupes américains qui ont au moins 15 à 20 dates. Boy Archer émet encore moins que ses collègues US, car il a aussi plus de 10 dates, mais en plus c'est un duo. C'est plus faible que les groupes de 5 musiciens ou plus. Hein. Après, il y a des extranationaux, Belges, Espagne, Irlande, Angleterre, qui viennent. Et eux, leurs émissions sont inférieures à une tonne en général, entre 0,5 et une tonne de CO2 pour une date. Donc il y a un facteur de 8 à 10 entre les émissions d'un groupe qui vient d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Nord et celui qui vient d'un rayon de 300 km. La distance, c'est le facteur le plus important. En même temps, par soirée, on peut regarder aussi en fonction des artistes qui sont par soirée. Il y a des soirées donc, qui sont à une tonne de CO2. Hein, c'était la soirée du 7-6 où il y avait principalement les artistes type Cadillac, je ne vais pas dire locaux, mais quand même d'une sphère très proche, hein, Paris et puis tout un schéma local aussi. Donc là, on est à seulement 300 grammes de CO2 par festivalier pour la venue des artistes. Et on a des soirées comme la première soirée, qui était une excellente soirée aussi, mais avec beaucoup de groupes étrangers. Donc, et là, on est à 6,8 tonnes de CO2 pour la soirée, ce qui fait 1,9 kg de CO2 par festivalier, c'est-à-dire de l'ordre de 6 fois plus que par rapport à la première soirée. Donc il y a de grandes disparités. Mais le premier soir, il y avait deux groupes américains, un groupe d'Afrique du Sud et je crois aussi un groupe d'Angleterre. Alors il y a les apérock, qui est aussi une forme de concert assez intéressante.
Ça, on rappelle, hein, c'est pas sur le site d'au quart de tour à la Gloriette, c'est un petit peu partout dans les bars de la ville de Tours. Il y a des concerts gratos, beaucoup des groupes locaux.
Principalement des groupes locaux ou d'un périmètre assez réduit. Hein. L'apérock, c'est que en fait c'est le groupe qui se déplace. Le public n'est qu'un public soit local ou soit de badaud. Les impacts environnementaux du public sont quasi nuls. Et les impacts environnementaux des groupes, bon, les déplacements et de la logistique et de la consommation d'électricité sont quasiment nuls. Même pas 0,2 tonnes de CO2 pour les 10 apérocs qu'a pu y avoir.
Finalement, le public est déjà sur place. Et c'est le groupe qui souvent est local, va au public qui est déjà là, puisqu'il est en ville.
En fait, on est dans une forme situationniste presque, puisqu'on impose un plateau de musique au milieu de la rue, et là, le public, c'est celui qui est là. Voilà, pour les apérocs. Donc, la forme la plus parvenue en termes d'impact carbone pour les concerts.
Spéciale dédicace à toute l'équipe des apérocs, avec leur costard 3 pièces cravate, vous êtes finalement, entre guillemets, les moins polluants du festival.
Voilà, c'est les hommes en noir, mais en noir de carbone. Globalement, si on se fait une écologie du festival, une écologie de l'artiste aussi, plus un artiste tourne, plus il touche de public, plus ses émissions sont faibles par unité de public. Voilà. Si on fait un artiste connus, tout ça, ou même des gros festivals comme le Hellfest et tout ça, où on se rend compte que, bon, un artiste, sur un seul concert, va drainer 100 000 personnes. Ça veut dire que, au lieu d'aller voir, lui, 10 fois 10 000 personnes qui se déplaceront moins pour venir le voir, puisque c'est lui qui se déplacera 10 fois, aura moins d'impact sur l'environnement qu'un seul concert de cet artiste où 100 000 personnes se déplacent d'un rayon beaucoup plus vaste, en fait. Le problème du concert unique fait que le rayon de déplacement du public est très vaste et aussitôt ça explose les bilans carbone. Tandis qu'un artiste, je sais pas moi, Judas Priest, au Hellfest, au lieu de faire un seul concert avec 100 000 fans, eh bien non, il vaut mieux qu'il fasse 10 concerts aux quatre coins de la France, un autre en Allemagne, un autre en Espagne, où le public plus local pourra se déplacer et fera beaucoup moins d'émissions dans ses déplacements que l'artiste. Parce que de toute façon, l'artiste émet toujours moins que le public. Donc c'est ce qu'il faut limiter, c'est le public.
Ce qui est formidable, c'est que Judas Priest, par exemple, vienne jouer chez les gens dans leur salon, chez chaque festivalier.
Je sais pas pourquoi j'ai pris ce groupe-là, je crois que c'est parce que avec Motley Crue, des trucs comme ça, ça fait partie des pires groupes que j'aime pas.
Ça aurait pu être Europe. Non mais Hellfest, évidemment, c'est aussi un exemple emblématique et qui peut-être même à l'opposé de ce que peut être au car. Justement, en bilan carbone, surtout pour le déplacement de tout le monde. C'est au milieu de la Pampa, c'est desservi par rien. Donc faut y aller en bagnole.
C'est d'énormes moyens. C'est un public qui vient d'un rayon insensé. Ils viennent de toute l'Europe. Donc non, ça a un impact phénoménal des festivals comme ça. Principalement à cause du déplacement des publics. Même si là, en plus, là, il y a une logistique qui doit pas être négligeable. Sans parler de la nourriture et de la bière, qui, comme je l'ai dit, et comme on va l'aborder, est le deuxième poste après le déplacement.
Alors Val, pour en revenir par exemple à nos artistes étrangers qui émettent donc un certain bilan carbone, donc on dirait « Oh mon Dieu, ils polluent ces gens qui viennent de loin ». Mais alors j'ai entendu parler d'un truc de compensation de bilan carbone. Ça veut dire que dans les avions, il y a des pédaliers, on peut choisir une place pour compenser un petit peu son trajet en pédalant dans l'avion.
Ce dont tu parles, il s'agit de la compensation carbone. C'est quelque chose qui existe depuis le début du XXIe siècle. La compensation carbone, c'est une merveille qu'on propose souvent aux voyagistes ou aux gens qui voyagent beaucoup en avion. Et on leur propose de compenser les émissions de CO2 liées à leur voyage en avion, qui sont souvent des voyages d'agrément, des choses comme ça, en faisant une compensation, c'est-à-dire en allant planter des arbres, c'est-à-dire en finançant un petit surcoût sur le billet qui va permettre d'aller planter des arbres. En plantant dans les arbres, on considère que le développement de cette biomasse va fixer du CO2 et en fixant ce gaz carbonique, ça va compenser les émissions de gaz carbonique liées au voyage. Alors ça, je crois que c'est révolutionnaire parce que ça va tout sauver, mais c'est totalement faux. En fait,
ça sonne un peu comme du pipeau quand tu le racontes comme ça. Allez, plante un arbre en sortant de l'aéroport, ce sera moins grave.
Mais oui, oui, non, mais c'est un truc insensé, quoi. C'est qui permet de donner bonne conscience aux jeunes blancs occidentaux qui se disent « Oh bon, ben, je peux continuer à voyager puisque je compense. » Et puis même, j'aide des pays sous-développés. Donc là, on est encore dans une forme de néocolonialisme. Non, la compensation est un leurre, escroquerie intellectuelle et même scientifique. Puisque la compensation, il s'agit de fixer le CO2 que tu as émis en brûlant des énergies fossiles et qui vont se retrouver dans l'atmosphère. On va dire 100 ans après, il en restera 40%, et puis encore 1000 ans après, il en restera 20%. Alors que si tu compenses avec un arbre, l'arbre, bon, il va pousser, on considère qu'au bout de 100 ans, on va le couper et on va le restituer, par exemple, en biomasse pour créer de l'énergie ou des choses comme ça. Donc, en fait, on ne compense que pendant un tout petit laps de temps, alors que le CO2 reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Donc déjà, on voit l'escroquerie intellectuelle sur la compensation. Puis après, si on voulait vraiment tout compenser, bah, il faudrait planter des arbres partout. Mais alors, quelle terre nous resterait-il pour planter, des fruits, des légumes, des trucs pour manger, ou pour faire paître les vaches qui vont nous... Enfin, bref... Donc, pour l'agriculture, donc, ça veut dire que la compensation rentre en compétition avec les terres agricoles. Bon, ça pose un problème, on se rend compte que donc, cette méthode a des limites. Je déconseille complètement la compensation, c'est un leurre, ça sert simplement à donner bonne conscience à des gens qui veulent surtout pas changer leur petit confort et qui ont quelques euros en plus à dépenser, parce que c'est des classes moyennes généralement, hein, qui font ces voyages en avion et qui ont quelques euros à dépenser. Donc c'est, je dépense quelques euros pour me donner bonne conscience.
C'est ça qu'on appelle le greenwashing ?
Oui, ou dans le greenwashing ou dans le colibrisme mercantile. C'est du total greenwashing. C'est les anglo-saxons qui aiment bien ça, mais ils sont très forts en greenwashing.
Rappelle-nous, pour 5 jours de quart de tour à la Gloriette, combien de tonnes de CO2 en tout ?
Pour 5 jours, en tout, on a 172 tonnes de CO2 qui sont produits pour le festival au quart de tour édition 2019.
C'est en fait relativement peu par rapport à d'autres festivals, on l'a vu, qui sont moins bien desservis par des moyens de transport collectif ou des choses comme ça. Sur toutes ces tonnes de CO2, on a beaucoup étudié le bilan carbone des déplacements des festivaliers et des artistes. Cette consommation de carburant, d'avions, de voitures et de camions des uns et des autres, elle représente quel pourcentage de notre chiffre global, de nos tonnes de CO2 d'Ocar?
Les déplacements, bon, de tout ce monde dont tu as parlé, ça représente 140 tonnes, c'est-à-dire 78%. Le transport, c'est le poste principal des émissions de CO2, de ce bilan carbone, du festival au quart de tour 2019. Alors, le transport, c'est 140 tonnes hein, sur les 172 tonnes, c'est-à-dire 81%, 4/5 des émissions. S'il y a des actions à faire, ça sera surtout dans ce domaine si on veut réduire de façon drastique les émissions. Alors, dans le transport, je le rappelle juste pour conclure, 62% des émissions totales du festival sont liées au transport du public. Puis ensuite, 18% des émissions totales du festival sont liées au transport des artistes, ce qui correspond à 1,5 kg de CO2 par festivalier. Et il y a les bénévoles qui représentent 2,5% des émissions totales du festival pour leur transport.
Votre étude démontre en fait que l'essentiel du CO2 produit est produit par le transport des festivaliers et des artistes, c'est-à-dire 80% du CO2 produit par au quart de tour, c'est ça, c'est le transport. Et alors, les 20 autres pourcents, c'est quoi ?
Même, on pourrait croire, bon, ça y est, on a 80% des impacts, on arrête là. Mais non, on a été chercher aussi à quoi correspondaient les autres 20% qui restaient dans le cadre du bilan carbone, parce qu'un bilan carbone, c'est exhaustif, le plus complet possible. Et donc, on a été regarder aussi d'autres postes qui sont la nourriture et les boissons, qui sont la logistique, qui sont la communication et la gestion des déchets, et ainsi que la consommation d'énergie sur le site. Alors, la nourriture et les boissons, c'est quand même pas un poste anodin.
Côté public, faut nourrir, je sais pas, entre 2000, 3000 ou 3500 personnes, à coups de merguez et de plein de trucs comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas que ça à manger sur Ocar. Et puis, il faut quand même aussi nourrir une équipe, 200 bénévoles.
200 bénévoles, hein. Il y a 200 bénévoles, donc il faut les nourrir aussi tous les soirs et tous les midis.
C'est l'un des fers de lance de la politique d'Ocar de Tours, c'est de bien nourrir les bénévoles. D'abord, ça leur permet de manger la même chose que les artistes, hein, parce qu'il n'y a pas de carré VIP où les uns mangent mieux que certains autres. Au quart de tour, l'artiste mange à la même table que le bénévole, et en plus, c'est bon. Donc après, le bénévole, il est content de travailler gratuitement pour au quart de tour.
C'est important de bien manger, hein, ça fait un moment convivial. Bon, et en ce qui concerne donc les émissions de ce poste, si on veut envisager une réduction, c'est mettre des produits moins carnés au menu. Voilà.
Alors, ce qui allège, je suppose aussi, le bilan carbone de la nourriture donnée notamment aux bénévoles, contrairement à certains festivals qui n'ont pas les gamelles, les fourneaux, les frigos, les machins, et qui sont obligés de faire appel à un traiteur. Ça, tout de suite, bilan carbone, et puis c'est cher. Là où au quart de tour, ils sont malins, c'est qu'ils ont une super équipe cuisine et qui ne font absolument pas appel à un traiteur, donc qui serait obligé d'utiliser un camion pour apporter de la bouffe plus ou moins de merde, plus ou moins Sodexo. À au quart de tour, la nourriture des bénévoles, elle est fabriquée sur place. Et ça allège, un, le coût financier, et deux, le bilan carbone. Ils sont malins au quart de tour.
Putain, qu'est-ce qu'ils sont malins. La nourriture et les boissons, c'est le deuxième poste du festival avec 13% des émissions de CO2. 13% des émissions de CO2 se répartissent principalement sur les boissons. On a 16 tonnes de CO2 qui sont émises Et la nourriture, où là on a plutôt 5,5 tonnes de CO2. Alors, comme je le disais, on est à peu près à 22 tonnes de CO2, soit 13% des émissions totales du festival. C'est-à-dire, c'est aussi 1,13 kg de CO2 par festivalier. Alors, comment ça se répartit? C'est intéressant. En fait, les émissions liées aux boissons sont plus importantes que celles liées à la nourriture. Oui, on vient plus au festival, on va plus se rafraîchir que ne se nourrir. En fait, les boissons représentent 16 tonnes de CO2, c'est 72% des émissions de ce poste. Alors donc, les émissions sont liées aux quantités consommées. Il y a eu beaucoup de bière de consommer, il y a eu beaucoup d'émissions liées à la consommation de bière, de l'ordre de 10 tonnes de CO2. Je ne parle pas du CO2 qui est dans les bulles des bières. Alors, dans la bière, il y a une grande disparité, puisque en fonction des approvisionnements, des sources, les émissions sont différentes. C'est là qu'on peut voir que la bière en fût est plutôt plus émissive que la bière locale, type la petite maïs ou toute autre. Là, c'était celle qui était servie sur le festival ou toute autre bière locale, puisque on est en bière fût, on est à 700 g de CO2 par litre, tandis qu'une bière locale, on est à 450 g de CO2 par litre.
Parce que la bière locale, elle n'est pas en fût ?
C'est pas là le problème, c'est plus un problème lié au transport, puisque la bière en fût est fabriquée à Ibernais, au Bernais, donc l'impact du transport est plus important. Maintenant, si on regarde aussi en termes d'émissions les plus importantes, la boisson qui a le plus d'émissions, étonnamment, c'est le vin, entre 1 et 1,3 kg de CO2 par litre. Alors, c'est lié au processus de fabrication, c'est de l'agriculture, c'est pas forcément de l'agriculture bio. Quand c'est de l'agriculture bio, les émissions par litre de vin diminuent facilement de 15 à 20%. Donc, il vaut mieux s'approvisionner en vin bio qu'en vin classique, même si les appros sont locales. Donc, tout le vin consommé sur le site est en vin local, bio ou non bio. On s'est rendu compte quand même que les bières canettes étaient celles qui avaient le plus d'impact, avec 1,2 kg de CO2 par litre. Ça, c'est principalement lié à l'emballage de la bière.
Et ça, c'est surtout les bénévoles, parce qu'il n'y a pas de canettes pour le public.
Et puis, il y a aussi les softs, qui étaient aussi en canette, alu et en canette plastique. Un soft comme l'eau minérale en bouteille, bon, c'est quand même 0,4 à 0,5 kg de CO2. Par litre. Donc toutes les boissons ont un impact sur l'environnement, tant par leur emballage que par leur transport sur site et que par leur procédé de fabrication. Après, il y en a qui ont moins d'impact. Dans le cas de la bière, c'est une bière locale sans emballage métallique mais servie en fût. Dans le cas du vin, c'est un vin local. Puis dans le cas des softs, c'est des softs plutôt en jus de fruits, en cubis, et qui sont servis au verre. Tandis que les autres softs en emballage plastique, bon, ça a son impact lié à l'emballage plastique. Voilà pour les boissons. Donc, c'est pas anodin. Les boissons, ça produit du CO2. Et ensuite, la nourriture aussi. Alors, la nourriture, pour les festivaliers, ça se décomposait en deux postes, c'est-à-dire soit des sandwichs, poulet, fromage, soit des merguez, institutionnels, les merguez. Et il y avait aussi la nourriture des bénévoles, qui était un poste aussi assez important. Globalement, bon, sur la nourriture, il y a 5 tonnes de CO2. Et c'est principalement la viande qui représente 60% de ces émissions de CO2. Et 15% des émissions pour le poste nourriture-boisson. Pour résumer, il faut localiser le plus possible les approvisionnements, réduire au maximum les emballages individuels pour les boissons et diminuer la présence de viande, au moins pour la part des bénévoles et peut-être pour une petite part pour le public dans les sandwichs. Après, le sandwich merguez est institutionnel et je sais qu'il y a des gens qui ne viendront pas au quart de tour s'il n'y a pas un sandwich merguez.
Au quart sans merguez, c'est comme un CRS sans moustache.
Ah ouais, c'est un peu triste.
Est-ce qu'il y a de la merguez locale ?
C'était un boucher du coin qui leur faisait leurs 50 kilos quotidien. C'est pas parce qu'on mange un peu de viande qu'il faut se couvrir la tête de cendre, de charbon de bois. Non, on n'est pas non plus dans l'intégrisme.
Alors Val, on récapitule, le carburant des festivaliers et des artistes représente 81% de notre bilan carbone total sur au quart de tour. Nourriture et boissons, ça fait 13%. Il nous reste encore quelques poignées de pourcents, et d'où viennent-ils ?
Les pourcents qui restent sont répartis entre la logistique, la communication et l'énergie, et un peu sur la gestion des déchets. Voilà. Alors, le poste suivant, c'est la logistique, qui représente 4 tonnes de CO2.
Qu'est-ce que tu appelles logistique ?
Tout ce qui est transport des chapiteaux, montage des chapiteaux, transport des barrières, les scènes, tout le matériel de diffusion, les lumières, donc les barrières qui encadrent le site, les bennes pour les déchets, les camions frigos, les chalets pour l'entrée, enfin tout le transport de ce matériel, quoi. N'est pas compté dedans l'amortissement du matériel parce qu'il est utilisé sur un très court laps de temps et donc les chiffres d'amortissement sont dérisoires par rapport à tout ça.
Comme pour le public ou pour les artistes, là aussi, le poste principal, c'est le carburant utilisé pour amener et ramener.
Oui, tout à fait. Hein. C'est le principal poste, ce sont les chapiteaux qui représentent environ une tonne chacun. C'est peanuts. En plus, c'est des chapiteaux donc bâches enduites qui ont plus de 20 ans pour l'un et qui sont amortis depuis très longtemps. Ce que j'appelle, moi, des structures légères et faiblement émissives, en fait, faiblement impactantes. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a le poste du roller, il y a le roller qui est venu, donc c'est aussi un peu de logistique.
Oui, il y a eu une attraction, roller skate, parce qu'à Aucar, il n'y a pas que des concerts, il y a plein de petits espaces où il se passe plein de petits machins, il y a un petit pôle théâtre de rue, comme on dit rapidement.
Il y a le chapiteau de la Smala, qui est super, il y a le chapiteau Kéké, donc il y a plein de petites choses. Ça aussi, c'est compté dans la logistique. Donc très très faible impact hein, pour ce... En fait non, la logistique a un impact très faible et je pense qu'on est au talon et c'est difficile d'aller chercher encore quelques kilos de CO2 à réduire dans ce domaine car déjà on est assez bien optimisé. Donc voilà, sur la logistique, elle représente 200 grammes par festivalier, c'est une logistique je vais dire très légère. Ensuite il y a un poste suivant qui a été compté, c'est la communication qui représente 3 tonnes de CO2, hein, principalement réparties entre consommation de papier, évidemment, et la consommation de services type impression et diffusion des affiches sur des supports éclairés, par exemple. Hein. Donc, on se rend compte qu'on est à 3 tonnes de CO2. La communication a aussi, on a compté un peu aussi tout ce qui est consommation sur Internet.
Envoyer des mails, faire des posts sur Facebook, etc. Bah, quelque part, à l'autre bout du tuyau, ça fait tourner soit une éolienne, soit une centrale nucléaire.
Là, les émissions de CO2 sur la communication, c'est principalement lié à la consommation de papier et de services, qui correspondent en fait à 150 grammes par festivalier. Ceci, c'est hors électricité. L'électricité consommée pour, on va dire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et aussi pour l'électricité des panneaux rétroéclairés. Là, on est plus sur des impacts de l'ordre d'une petite tonne de CO2 pour la consommation d'énergie, pour donc l'usage de l'électricité pour la communication. Ça reste modéré. Hein. Après, il y a l'usage des panneaux rétroéclairés qui peut poser la question en termes de consommation d'énergie. Voilà.
De toute façon, sur ces 4x3 éclairés qui, de toute façon, sont là, si c'est une affiche au quart de tour ou une pub pour un parfum ou la dernière bagnole, de toute façon, ils sont là, quoi. Ils sont là, ils polluent, ils font de la lumière.
D'accord, mais moi, je suis obligé de compter leurs émissions dans le bilan carbone. Voilà, sur la communication, il n'y a pas de poste vraiment sur lequel il y a des gros leviers d'action. Pour réduire les... Bon, je pars du principe que les quantités sont optimisées après 33 ans d'expérience. Donc en termes de nombre de fly, ils savent combien ils en impriment. En termes de nombre de... Là-dessus, je considère que c'est optimisé, voilà. Qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Après, il y a un petit poste aussi avec l'élimination des déchets. Le festival a généré environ 3,3 tonnes de déchets en vrac, c'est-à-dire 170 grammes par festivalier, hein, qui sont éliminés en centre d'enfouissement. Dans ces 3300 kilos, il y a 800 kilos de verre aussi. Et là, le verre est principalement, c'est par rapport à la cantine, et aussi, surtout, aux entrées, puisque les festivaliers viennent avec leur consommation devant le festival, font un petit binge drinking avant d'aller dans le festival, et puis laissent leur bouteille de verre à l'entrée du festival. Et là, on récupère 800 kilos de verre.
Je ne sais pas si on peut tirer de règle générale, mais les quelques fois où je suis passé à l'entrée du festival, là où il y a le parking et puis des gens qui picolent sur le parking, je les trouve assez disciplinés et pas mal les gens, parce qu'ils picolent, certes, ils se bourrent la gueule avant de rentrer au car, mais souvent, ils amènent leur verre à la benne une fois qu'ils ont fini de picoler, même défoncé. Je trouve ça pas mal. Alors après, il doit y avoir quand même des bouteilles de verre qui traînent sur le parking et sur le... Mais globalement, j'ai trouvé que ces gens qui boivent avant de rentrer dans le festival gèrent leur verre, quoi, puisqu'ils le ramènent à la benne.
Ouais, ils sont moins cons qu'on le croit, quoi. Ouais. Ou que tu le crois. Sur la gestion des déchets, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur le déchet. Peut-être que le tri pourrait être amélioré, mais c'est vachement dur d'organiser un tri... En festival, avec un public qui est à un moment plus proche du Nevada que de la poubelle verte, quoi. Voilà. Un point important qu'on peut dire, c'est l'utilisation des toilettes sèches, hein, puisque les eaux usées, c'est considéré comme déchet, hein, ça a un impact. Cet usage de toilettes sèches, quand même, va faire économiser au festival de l'ordre de 2 à 3 tonnes de CO2. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose à signaler pour montrer, là, en fait, on est à rechercher les vertus environnementales à mettre en œuvre pour avoir un festival qui ait moins d'impact sur l'environnement. L'usage de toilettes sèches a un véritable impact favorable sur l'environnement.
On se rappelle tous, enfin pour les plus vieux d'entre nous, pour ceux qui allaient au festival au quart de tour, au millénaire dernier, on a ponctuellement connu ces épouvantables toilettes chimiques, d'abord qui étaient une horreur au bout de trois quarts d'heure, et puis bah dans toilettes chimiques, il y a chimique, tout ça, ça devait bien fabriquer de la merde, enfin pas seulement celle des festivaliers, traitement chimique épouvantable quoi, ça devait être lourd en bilan carbone les toilettes, les soi-disant toilettes chimiques.
Oui, pas seulement en bilan carbone, mais aussi en termes de traitement des déchets, donc en termes d'impact sur d'autres impacts sur l'environnement. Puisque c'est des toilettes chimiques, donc elles sont en contact avec des produits chimiques, et donc après ça, il faut le traiter. Et ça a d'autres impacts en termes de pollution.
Et Charlie, des toilettes sèches, nous avait expliqué que les caca et les pipis des festivaliers et festivalières, en fait, vont se transformer un petit peu plus loin, à quelques kilomètres de l'agglo, en compost.
Compost pour des haies, hein. Il ne peut pas être utilisé en compost pour l'agriculture, en tout ce qui est alimentation humaine ou animale. Hein, donc c'est uniquement en compost sur des haies ou en agroforesterie.
Dans les derniers pourcents de notre bilan carbone, Val, il y a les énergies, il y a l'électricité, hein, puisque musiques actuelles amplifiées.
Dans ce poste énergie est compté l'énergie, l'électricité consommée sur le site, qui est inférieure à 5 MW, hein, ce qui n'est pas énorme. C'est compris aussi le gaz utilisé pour la cuisson et aussi l'électricité utilisée pour la communication, panneaux éclairés et utilisation d'Internet. Les émissions sur ce poste sont relativement faibles, de l'ordre de 1,6 tonnes, c'est-à-dire 1% des émissions. La consommation d'énergie directe, allons-nous dire, pour le festival, c'est 1% des émissions de CO2.
On n'a pas oublié le charbon pour cuire nos 50 000 kilos de merguez quotidienne.
Non, mais le charbon de bois, ça n'a pas d'émissions, puisqu'en fait, on a séquestré du CO2 et on le restitue en termes de somme. On pourrait compter le transport, mais bon, c'était... Pour en revenir à nos énergies, donc comme je l'ai décrit, hein, consommation du site, cuisson, consommation, électricité, communication. Le poste le plus important sur la consommation d'électricité, c'est la communication par affichage. Ensuite, la cuisson, bon, ça émet 0,5 tonnes de CO2, mais c'est quand même de la cuisson. Bon, pour l'usage d'Internet, on a des chiffres faibles, de l'ordre de 300 kg. Et juste pour l'alimentation en électricité du site, on est à 200 kilos de CO2, c'est-à-dire c'est le poste le plus faible du festival.
Ouais.
C'est normal, hein. En France, on a une électricité déjà faiblement carbonée, grâce à notre programme nucléaire mis en place dans les années 70 et qu'on continue à exploiter, et donc qui déjà, là, a une production de CO2 très faible, on va dire, pas très faible. Mais la particularité du mois de juin 2019, car j'ai utilisé le facteur d'émission de CO2 qui est donné par EDF mois par mois. Et ce facteur du mois de juin était le plus faible des mois de juin qu'ils ont depuis 15 ans. Et je crois qu'il était de l'ordre de 22 grammes par kilowattheure, ce qui en fait un des plus faibles même que jamais enregistré par EDF. Bon, cette situation a été simplement le résultat d'une surproduction d'énergie éolienne en Europe que EDF a racheté en juin. Ce qui lui a permis d'avoir des émissions de CO2 beaucoup plus faibles que d'habitude, car il n'y avait même pas de centrales à charbon. On a encore quelques-unes en France. Alors là, on les a même toutes éteintes. Le nucléaire qui émet plus, donc, a été sous-consommé, puisque, en fait, le nucléaire, malgré tous ses défauts, est une énergie pilotable. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin, on retire les barres et puis voilà, on la laisse en sous-régime. Tandis que l'éolien, c'est pas du tout pilotable et donc, quand il y a des milliers de mégawatts qui arrivent, on n'a pas les batteries pour le stocker. les centres de stockage, les steppes, on peut utiliser, mais sinon, il faut la consommer tout de suite, cette électricité. Et donc, le fournisseur, il voit cette électricité bon marché arriver dans ses canaux, dans ses fils. Ben, il se dit, j'arrête mes centrales et puis j'utilise cet éolien qui est encore moins cher que le coût du marché. C'est comme ça que se passe le marché de l'électricité. Et c'est comme ça qu'on a eu un facteur d'émission très faible sur le mois de juin 2019.
En fait, c'est marrant, l'information pour moi là que tu viens de donner, c'est que le concert, c'est-à-dire la musique amplifiée, ce pourquoi d'ailleurs les gens se déplacent pour venir voir et écouter ça, c'est pas le poste le plus polluant. La prestation scénique de l'artiste électrifié, c'est pas ça qui pollue le plus.
Non, surtout depuis qu'il y a eu les LED. Hein. Les LED ont amené un grand progrès en termes de consommation d'énergie sur les scènes. Il y a eu facilement une diminution par 2, par 3. Je dirais pas plus parce qu'en fait on en a rajouté des LED. Donc, ce qui fait qu'en fait même si les LED consomment 8 fois moins d'électricité, la diminution ne sera que de 2 ou 4 fois moins puisqu'on aura rajouté plein de LED. Oui, néanmoins ça c'est un progrès. C'est vrai que ça peut être surprenant de voir qu'en fait le cœur, le noyau du festival est le poste le moins émissif. Ça ne représente d'ailleurs que 80 grammes par festivalier.
Alors Val, on en arrive à la conclusion de notre opération au carbone, de cette étude du bilan carbone de cette 33e édition du festival au quart de tour. On a vu que l'essentiel du CO2 est émis par les déplacements, hein, par le carburant utilisé par les uns les autres, les artistes, les festivaliers. Et donc là, on a vu déjà se dessiner que c'est là-dessus qu'on peut encore améliorer le bilan carbone du festival. Avec un message simple peut-être, les copains, les copines qui habitaient à Tours intramuros, essayez de vous débrouiller pour ne pas venir à Aucar en voiture, surtout si vous habitez qu'à quelques coups de pédale du festival, ou alors si vous venez en auto, mettez un maximum de monde dans votre automobile, quoi.
Oui, c'est une conclusion simple mais efficace. Alors j'aimerais revenir sur les émissions totales du CO2, qui sont de 172 tonnes. Alors ça correspond quand même, pour donner un ordre de grandeur, ça correspond aux émissions de 5 vols aller-retour Tours-Porto. Ça correspond aussi aux émissions de 5 familles françaises de 4 personnes sur un an.
Les 5 jours de festival au quart de tour, ça équivaut à 5 allers-retours en avion Tours-Porto ?
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
C'est rien, quoi. Ou alors c'est que 5 allers-retours Tours-Porto, c'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup trop, vais-je dire, selon mon point de vue. Pas pour le festival, hein. Pour simplement le fait qu'on fasse des allers-retours Tours-Porto.
On pourrait dire que un avion qui fait 5 allers-retours Tours-Porto, ça, entre guillemets, pollue autant que 5 jours de quart de tour qui donnent tant de bonheur à au moins 4 ou 5 000 personnes tous les soirs.
Là, on peut donner un indice de bonheur par unité de CO2, par exemple. C'est vrai que 5 allers-retours Tours-Porto, ça va faire quoi ? 150 personnes par avion ? Ça fait 750 personnes pour 172 tonnes de CO2, tandis que dans le cadre de quart de tour, c'est 19 000 personnes pour 172 tonnes de CO2. En termes d'unité de loisir, le bénéfice d'un festival au quart de tour est plus important parce qu'il touche beaucoup plus de monde pour une émission équivalente à 5 vols aller-retour Tours-Porto. En plus, je veux dire, économiquement parlant, au quart de tour rapporte, ce qui n'est pas le cas des 5 vols aller-retour Tours-Porto, puisqu'en fait, il s'agit de gens qui vont aller à Porto dépenser leur argent, tandis que dans le cas du festival au quart de tour, c'est quand même 19 000 personnes qui vont venir à Aucar et vont faire tourner le circuit, on va dire, local. Même si le festival de Tours est construit avec beaucoup de bénévoles et des salariés compétents aussi, car il y a aussi des salariés au festival de Tours, ce qui n'est pas le cas de la compagnie Ryanair qui fait nos fameux Tours-Porto aller-retour, qui en termes de conditions sociales sont absolument limites, et puis en termes d'évitement fiscal sont les champions. Voilà, si on parle d'unité de loisir, d'émissions de CO2, il est beaucoup plus sain pour la planète d'aller au festival au quart de tour, même les 5 soirs, et même en y allant en voiture de Saint-Pierre-des-Corps, que d'aller à Porto.
Tu as donné une autre unité de mesure. 5 jours de festival au quart de tour, ça génère autant de carbone que combien de familles pendant un an ?
Que 5 familles de 4 personnes, plus une personne isolée, allez, si on veut être vraiment précis. Ça aussi, ça donne une mesure assez intéressante, parce que, et là aussi, comme tu l'as dit, c'est pas tant que ça. C'est vrai que ça permet de relativiser véritablement l'impact environnemental en termes d'émissions CO2 du festival au quart de tour. De ce type de festival, parce que bon, c'est un festival à taille humaine, hein, puisque tu l'as dit, il n'y a jamais plus de 4000 personnes en soirée. Il est bien desservi, c'est un public local, alors vous allez me dire, ça manque d'ambition, mais l'ambition, c'est le dernier refuge des ratés. Hein.
Après, ça, c'est un truc très personnel, mais très psychologique et très intime. Mais moi, je pense que dans une salle de spectacle, à plus de 350, on est trop. Et dans un festival, on bascule dans autre chose à plus de 3000 festivaliers. Mais je ne passe pas la même soirée à Ocar à partir du moment où il y a plus de 3000 personnes. Je trouve qu'à plus de 3000, on bascule dans quelque chose de humainement autre.
Bon, après, il y a l'enclos, hein, qui a une densification. Donc, c'est sûr que les conditions sont différentes.
Peut-être quand on parle de plus de politique, on se rend compte que c'est quand même des fois plus facile de se gérer à quelques centaines d'individus plutôt qu'à 67 millions. Mais finalement, on en revient aussi un petit peu à ce principe que de petites unités humaines, c'est peut-être plus facile à se gérer et à vivre que quand on est beaucoup plus nombreux.
Oui. Les grandes structures sont plus complexes et donc plus difficiles à gérer que les petites, ça on le sait. L'intérêt de ce bilan carbone, au-delà de cette mesure, au-delà aussi des mesures qui peuvent être mises en place pour diminuer les émissions de CO2 du festival, on peut mettre en place des mesures qui peuvent apporter une réduction de l'ordre de 10 à 15% des émissions de CO2, principalement au niveau du transport, de la nourriture et de 2-3 autres bricoles. Mais l'intérêt de ce bilan aussi, c'est aussi qu'il a permis à l'équipe de Quart de Tour de se rendre compte que, en fait, un festival a un impact sur l'environnement, avait des émissions de CO2. Ils s'en doutaient un peu, mais là, au moins, de les quantifier par domaine, par poste. Et en fait, c'est le premier pas, on va dire, pour véritablement prendre en compte d'une façon sérieuse et documentée, on va dire, prendre en compte donc l'environnement dans l'organisation du festival d'une façon plus rigoureuse. Moi, dans mes conclusions, je ne me suis pas juste limité aux émissions de CO2, j'aurais parlé aussi des déchets, la gestion des déchets et de divers autres points, enfin de gestion environnementale, et qui leur permet ensuite de développer une meilleure prise en compte de l'environnement dans leur organisation. Ça va être un aspect positif aussi pour l'équipe au quart de tour. Moi, je leur ai fourni une liste avec une trentaine d'actions potentielles, de pistes, de sentiers. Moi, je les ai appelés les sentiers de l'environnement, tu vois, pour vraiment qu'ils puissent les suivre et à arriver, mieux disant, à un bénéfice non seulement au niveau des émissions de CO2, mais aussi de la gestion environnementale du site et de l'organisation du festival.
Parmi ces principaux sentiers, est-ce que tu peux en énumérer quelques-uns ? Covoiturage, je suppose ?
Développement du covoiturage, le développement des transports en commun, avec l'extension du trajet des navettes retour vers Tournord, par exemple, le développement des transports en commun avec l'extension des horaires du tramway, la communication auprès du public, la communication auprès des partenaires, pour qu'ils prennent en compte, par exemple, le fait que quand ils viennent en voiture solo, ben voilà, ça c'est pas bien. Mais là, on pourra leur dire, vous émettez tant de kilos de CO2, ce qui explose la moyenne par festivalier, par exemple. Il y a aussi la communication vers les artistes, en français ou en anglais, qui est un point intéressant, parce que plus on communique, plus les gens, quand même, ça fait tilt, hein, c'est le principe de la publicité et de la propagande, ben, il n'y a pas de raison que nous non plus, on n'en fasse pas. Donc il s'agit vraiment de communiquer auprès de l'ensemble des parties qui sont intéressées dans tout ça.
La pédagogie, c'est l'art de la répétition.
Il y a aussi réduire ou éliminer les boissons en canettes métalliques, privilégier les emballages en vrac plutôt que les emballages individuels, privilégier les circuits courts et les boissons locales, favoriser la consommation de vin bio, diminuer la consommation de viande et mettre en place aussi une communication avec les fournisseurs et les sous-traitants. Il y a en termes de logistique, c'est surtout à la limite, ce qui serait bien, c'est de sensibiliser aussi sur les risques et les incidents. Par exemple, s'il y a une fuite de fluide frigogène, ça peut être très important en termes d'émissions. Les fuites frigogènes, c'est les fluides refroidissants pour les frigos et tout ça. Ça peut être important pour les émissions parce que des fois, il y a des fluides pour un kilo, ça a des émissions équivalentes à aller une tonne à 10 tonnes de CO2. Donc, c'est pas du tout négligeable. Ça, c'est des choses à maîtriser. Ça fait partie des incidents.
Je pense parce qu'il me semble bien qu'en nettoyage de site, on a balancé un frigo à la benne. Bah, si je sais, c'est moi qui l'ai porté à la benne, le frigo.
Je l'ai pas compté parce que je savais pas si... Mais t'as raison, ça fait partie des points. Oui, donc, mieux maîtriser les incidents qu'il peut y avoir. Par exemple, des fuites de fluides sur les frigos. Voilà, des choses comme ça. Ça serait à noter. Il y a aussi au niveau de la communication, oui, ça serait utiliser des écolabels pour les papiers, des labels aussi sur l'imprimerie qui existent, hein, c'est des labels imprime vert pour l'impression, et puis tu as plein d'écolabels pour les papiers, donc ce qui peut être toujours mieux, hein, aussi pour diminuer les impacts sur l'environnement de la consommation de papier pour les flyers et les affiches. Sur les déchets, bon, il y a quelque chose à faire, mais ça reste un poste délicat, mais... On peut toujours améliorer la gestion des déchets. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Donc, il y a des choses à faire. Sur la consommation d'énergie, peut-être rechercher un contrat d'approvisionnement en électricité d'origine renouvelable. Maintenant, ça se fait. Hein, même EDF en fournit. Et utiliser du biogaz pour la cuisson. Ça aussi, ça sera maintenant... Ils font des bouteilles de gaz en biogaz, d'après ce que j'ai vu. Donc ça, c'est des choses faciles. Et puis aussitôt, ça va avoir des impacts assez importants. Surtout pour le biogaz, puisqu'on a vu que c'était le deuxième poste pour la consommation d'énergie. Même si c'est faible en valeur absolue. Et enfin, une chose qui serait bien, c'est que si on veut mettre en place l'ensemble de ces actions, il faut que l'équipe de OCARM nomme quelqu'un qui pilote un peu tout ça. Un truc qui serait bien, ça serait de créer un manifeste de OCARM de Tours et l'environnement. Je veux dire, après cette première opération, de montrer qu'on a pris conscience de certains points. Communiquer les résultats du bilan carbone aussi, c'est important, via des émissions de radio. Un petit jingle aussi, ça serait marrant, un petit jingle, comme Radio Béton sait les faire, bien humoristique, pour le prochain festival. Donc un communiqué de presse... puis la disponibilité des résultats pour quiconque en fait la demande. Et puis peut-être rechercher ou créer une labellisation type éco-festival, ça aussi, au quart de tour, pourrait aussi, sur une autre étape, faire ce genre de choses. Donc globalement, c'est très positif pour l'équipe d'OCAR parce que ça a permis de nommer les choses. Et à partir de là, c'est à eux, s'ils ont décidé d'avoir un fond de volonté, de mettre tout ça en place.
Une des pistes, tant pis pour les gens comme moi qui sont fétichistes du gobelet plastique de l'édition du Festival OCARM de Tours, mais une piste future serait que les festivaliers viennent avec leur gobelet et le ramènent chez eux. On fait maintenant des espèces de petites suspensions là, qui s'accrochent à la ceinture pour mettre ton gobelet à la ceinture.
Ouais, il y a déjà un paquet de gens qui font ça. Bon, comme je l'ai dit, le Festival OCARM de Tours est un petit festival. Ça aura un impact favorable, certes, mais ça va pas aller très loin. Je connais un festival, celui de Glastonbury, qui cette année a supprimé les canettes en plastique. Plus de plastique pour les boissons sur le festival. Ils fournissaient des gourdes, tu la louais, tu la restituais après. Il y avait des fontaines d'eau pour venir se recharger. Partout, il y a une centaine de fontaines d'eau pour que les gens se rechargent. Mais ils ont supprimé, je crois qu'ils avaient 8 tonnes d'emballage plastique. C'est du plastique fin, hein. Faut imaginer la pyramide de plastique. 8 tonnes de plastique, c'est une belle pyramide de plastique. Mais là, comme on est sur des festivals à 150 000 personnes, des trucs comme ça, là, ça vaut le coup de faire ce genre de choses, car aussitôt, l'impact, même s'il est réduit par festivalier, est en valeur absolue important.
Je me sens un peu moins coupable de faire une collection de gobelets au quart de tour.
Je voudrais remercier l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées pendant le festival qui m'ont aidé à collecter ces données et à réaliser ce bilan carbone, en l'occurrence au niveau de l'équipe d'organisation. Donc je voudrais les remercier.
Et voilà les amis, c'est ici que se termine le quatrième et dernier épisode de notre opération au carbone. Alors la chose est entendue, si pour venir au festival on peut laisser la voiture et privilégier le tram ou le vélo, on contribuera à très sensiblement alléger le bilan carbone du festoche. Merci à Val, Gilles et merci à Steph à qui cette série d'émissions est dédiée. Série à réécouter sur notre site, polémiquesetlavoixoff.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast sans trop alourdir son bilan carbone. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.